Jennifer,
Oui.
est-ce que t'as vu le film Mommy?
Mon Dieu, pas encore.
Non, il faut aller le voir. Hier, j'étais allé le voir, là. Je suis rentré là à 9 h au cinéma, je suis sorti là à minuit. C'est pas grave, j'ai pas vu le temps passer. C'était un bon 3 heures bien remplies.
Ouais.
C'est à voir.
Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Je m'appelle Charles Roy, je suis en compagnie de Jennifer Venieri. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment ont été tes vacances, Jennifer?
Superbe.
Oui?
Fabuleuse,
Ah,
vraiment bien.
super. OK, très bien. Ben, peut-être que tu aurais pu emmener ta famille. Je sais que ta famille est venue de
Oui,
France.
effectivement.
Peut-être que tu aurais pu amener les voir le concert du 25e anniversaire de l'ensemble Caprice. Ou encore, tu aurais pu être peut-être plus amené au théâtre, voir Méphisto Méliès. Ou encore, peut-être aller voir l'exposition Multimo. Ça, il aurait fallu qu'il reste jusqu'en
Oui,
février.
c'est vrai.
Et peut-être, ou sinon, l'exposition de Renaud Philippe à Québec. Quoi qu'il en soit, on vous en parle de ça dans cette émission d'aujourd'hui. Et sinon, toi, Jennifer, de quoi tu vas nous parler?
Moi, pour commencer, je vous parlerai de musique avec la sortie du nouvel album pour cette année 2015 de Ma Liberté du chanteur Philippe Berghella, qui sera d'ici quelques jours en concert au Québec. Puis on reviendra sur la cérémonie des Golden Globes
Oui.
qui a eu lieu le week-end dernier. Et en deuxième partie d'émission, je vous emmènerai au théâtre avec la sortie de la pièce Le Dénominateur Commun en ce moment au théâtre de la Licorne. On parlera du festival Igloo Fest. Et on reviendra avec une note d'humour sur un spectacle cabaret appelé Les Femmelettes qui sont passées le 12 janvier à l'espace Larisée.
Bon, ben, bonne émission à tous, mais avant, débutons avec quelques sorties de disques. Ce sont deux articles que je vais vous lire de la presse paru le 14 décembre dernier, mais c'est encore actuel parce qu'il s'agit bien de musique classique et s'il y a bien une musique qui est intemporelle, je crois, c'est bien ce type de musique-là.
C'est vrai.
Alors, premier papier de Caroline Rogers, deuxième de Claude Gingras, je les enchaîne. Les deux grands musiciens qui ont acquis une profondeur et une compréhension intime des compositions avec les années nous livrent ce chef-d'œuvre, ces chefs-d'œuvre que sont les sonates pour violon de John Brahms. Un immense bonheur. Le très posé Augustin Dumay est magistral et bouleversant dans les mouvements lents et les passages doux et le son riche de son Guanterine del Jesus qui n'agresse jamais l'oreille, même dans les très rapides et les aigus. De son côté, Louis Lortie se fait humble, raffiné et subtil, laissant la vedette à son partenaire. Une comparaison avec d'autres excellentes versions enregistrées à différentes époques nous permet de constater que celle-ci n'a rien à leur envier. À écouter absolument, selon Madame Rogers sur ce disque, la sonate pour violon numéro 3, opus 108 Adagio. Donc, ce disque s'appelle Brahms Sonate pour violon. C'est de Augustin Dumay et Louis Lortie. Madame Rogers lui a donné 4 étoiles et demie. Ensuite, M. Gingras nous parle de New Zealand Symphony et Orchestra. Lui donne 4 étoiles à cet album-là. Peter Brainerd propose ici avec New Zealand Symphony Orchestra de Mussorgsy, réorchestré à sa façon. Des tableaux d'une exposition à l'origine pour piano seul, on connaît et on admire l'orchestration de Ravel. Mais il en existe une foule d'autres et on ne les entend jamais. Brainerd ajoute maintenant sa propre version, où il va très loin, choquera même. À une phalange de 60 cordes, il propose une gigantesque et ahurissante panoplie de percussions, dont certaines absolument inconnues. En complément, des pages vocales où l'orchestre remplace brillamment les chanteurs. À écouter absolument La cabane sur les pattes de poule. Bon, drôle, drôle de titre, mais ça a l'air que ça vaut la peine. Et ce disque s'appelle New Zealand Symphony Orchestra. C'est une direction de Peter Brainerd. Et dans le fond, oui, c'est ça, il a donné 4 étoiles.
Il a été l'une des têtes d'affiche de plusieurs comédies musicales, dont Don Juan et Sherazade. Il roule sa bosse dans le métier depuis plus d'une décennie et a 3 albums à son actif. Pourtant, bien peu de personnes pouvaient, avant l'année dernière, mettre un nom sur le visage du chanteur Philippe Berghella. Le voilà à l'entrée de 2015 avec Ma Liberté, son nouveau disque, et une tournée qui le fera voyager aux quatre coins du Québec. C'est Patrick Delisle-Crevier qui nous en parle dans le journal du 24 heures du week-end dernier, 9 au 11 janvier. Il y a presque un an, jour pour jour, Philippe Berghella s'est présenté devant les quatre coachs de la voix et n'a pas raté son entrée avec une version surprenante de la chanson « Wicked Games ». Il en a surpris plus d'un, à commencer par les coachs qui se sont battus pour le recruter dans leur équipe. Il a rejoint alors les rangs de l'équipe d'Isabelle Boulay. Non, il ne remportera pas les grands honneurs de ce concours, mais cela a bien peu d'importance pour le chanteur qui a tout de même atteint son objectif. Je ne me suis pas pointée à la voix avec l'ambition de gagner. Ce que je voulais, c'était avant tout me démarquer, me faire connaître du grand public, et je pense qu'en ce sens, ça a porté ses fruits, dit le chanteur. L'homme de 36 ans, qui a eu sa première guitare à l'âge de 13 ans, a réussi pendant plusieurs années à bien gagner sa vie dans le milieu de la musique. Il a sorti un premier disque en 2001, avant de décrocher un premier rôle dans la comédie musicale Don Juan. « J'ai campé le rôle du soldat Raphaël pendant 5 ans, et ensuite j'ai enchaîné avec le rôle du roi dans Sherazade, une autre comédie musicale. Ce furent des expériences magnifiques pour moi et je le referai demain matin. Mais en même temps, j'ai chanté devant des milliers de personnes. Mais c'est certain que le gars que les gens voyaient sur scène n'était pas moi. C'était un personnage, un chanteur derrière un masque. Pendant que j'étais l'un ou l'autre sur scène, je ne travaillais pas vraiment sur ma musique et sur mes projets solo à moi, explique-t-il. En 2008, Félix Gray lui ouvre son tiroir de chansons et de musique et cela donne l'album « Vivre », un disque dont le chanteur est très fier, mais qui ne le représente pas pour autant. « Je suis fier d'avoir pu chanter les mots d'un grand comme Félix Gray, mais en même temps, ça m'a aussi encore une fois éloigné de ma musique à moi, de ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était plus son univers que le mien », indique le chanteur qui se défend bien d'en avoir conçu quelques frustrations. Il y a quelques mois, Philippe présentait Ma Liberté, un troisième disque, dont il a envie de dire qu'il s'agit de son premier véritable disque. C'est enfin le disque que j'avais envie de faire depuis si longtemps. J'ai l'impression de m'être complètement trouvée avec ces nouvelles chansons et de présenter enfin qui est Philippe Berghella. C'est un son folk, rock, mais avec une touche nouvelle, beaucoup plus pop. Cette touche pop, justement, c'est la signature du réalisateur Tino Izzo qui a servi de guide au chanteur durant le processus de l'album. J'arrive avec un son nouveau, je chante des textes positifs qui parlent de voyage, d'amour et de la vie. J'ai aussi découvert de différentes façons de travailler ma voix, dit celui qui a écrit plusieurs des chansons et des musiques de son album, tout en comptant également sur la collaboration de noms tels que Roger Tabra, Chantal Cadieux et Tino Izzo. Dans quelques jours, le chanteur partira, sa guitare sous le bras, à la rencontre de son public, qui le découvrira pour la première fois. « Je vais montrer de quel bois je me chauffe sur scène, je vais présenter mon nouvel album en entier, mais aussi des chansons des autres, dont Johnny Cash et Elvis Presley », conclut Philippe Berghella.
O vento faz rendez-vous no seu cabelo alinhado, acostumado com meu embolado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada, entre nela mais eu. Vambora, má, embora 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 mais eu. Eu deixaria a areia coberta de você. No seu cabelo enrolado, leve um cacho de dendê. Salte que o salto é do seu sapato. Passe que o espaço é do seu cavalo. Vambora, má, embora mais eu. Vambora, má, embora mais eu. Vambora, má, embora mais eu. faz rendez-vous no seu cabelo alinhado, acostumado com meu embolado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada, entre nela mais eu. Vambora, má, embora 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 mais eu.
Merci Rémi pour cette découverte musicale. C'était Alexandre Leao et sa chanson Vumbura Amar. Dave Saint-Pierre fait partie des nombreux artistes qui feront partie du concert du 25e anniversaire de l'Ensemble Caprice. C'est une troupe de théâtre, une troupe de danse plutôt, qui fête ses 25 ans et ils ont décidé d'inviter le chorégraphe pour manier les arts, la danse et la musique live. Alors, c'est un texte écrit par Frédéric Doyon dans Le Devoir, le 10 janvier. Dave Saint-Pierre frotte sa danse à la musique classique. Il y a un an, le chorégraphe Dave Saint-Pierre se vidait le cœur. Pas d'argent, pas de show, clamait-il sur sa page Facebook, menaçant de ne plus présenter ses spectacles à Montréal dans les conditions de sous-paiement chronique qui caractérisaient, selon lui, la scène d'ici. Le voici courtisé par l'Ensemble Caprice, pour qui il reprend des extraits de son petit mais fulgurant corpus chorégraphique avec une distribution réduite à 11 danseurs sur la vingtaine qu'il privilégie, oui, habituellement. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée, d'autant que l'incident est derrière lui et qu'il est rendu ailleurs. Créé sur la musique live, tous les chorégraphes en rêvent, mais c'est cher, confie-t-il au Devoir, celui qui privilégie des chansons et musique plus contemporaine, exaltant l'émotion. Je suis loin d'être un spécialiste du classique, mais je me suis dit, essayons et voyons si quelque chose en sort. Récemment en lice pour le prix Opus, l'Ensemble Caprice revise les répertoires surtout baroques, mais aussi classiques et interprète en création plus contemporaine avec son chef Mathias Mode, toujours avec des instruments d'époque. Pour le concert saluant ses 25 ans, Dave Saint-Pierre propose des segments de Foudre, dernier volet de sa trilogie sur les utopies amoureuses, pas encore vu à Montréal, sur la deuxième symphonie de Beethoven, interprétée par les 35 musiciens de l'orchestre. Des morceaux d'un peu de tendresse bordel de merde s'articuleront autour de la sérénade pour vent, de Nac Musique en do mineur, K388 de Mozart. La symbiose avec Caprice est telle qu'un autre projet de collaboration à la distribution plus modeste est destiné à la tournée est en germe. C'est fascinant de voir combien ça marche bien ensemble notre approche et ses chorégraphies, indique Mathias Mote, flûtiste et directeur artistique de l'ensemble musical. La musique classique est tellement codifiée que c'est facile d'en perdre le lien avec nous-mêmes, avec l'humain, le cœur qui bat. Or, Dave est à mes yeux quelqu'un qui met toujours en relation les arts et la vie. Pour lui, la grande liberté de la danse de Saint-Pierre s'allie fort bien aux pensées claires et mesurées du classique. Il qualifie la rencontre artistique de grand moment dans la vie de l'ensemble. Après sa série de pièces et de grands groupes, Dave St-Pierre s'apprête à lancer Fake, quatuor autour de la figure du fan à Lyon en février. Suivra la mise en scène de Macbeth au Schauspiel Frankfurt en avril, avec une première expérience de travail à partir d'un texte déjà écrit, et pas le moindre, disons-le, Shakespeare. Ce qui confirme son envie d'essayer d'autres formes. Après quoi, il souhaite un temps d'arrêt pour digérer un peu tout ce qu'il a vécu depuis 15 ans. Mais en sera-t-il capable? Donc, ce spectacle, c'est le concert du 25e anniversaire de l'ensemble Caprice, et c'est à la salle Pierre-Mercure, demain, le 17 janvier.
Charles, la semaine dernière, s'est tenue la cérémonie des Golden Globes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les suivre. Mais lors de cet événement, les célébrités hollywoodiennes ont marqué leur soutien à Charlie Hebdo suite aux récents événements tragiques qui ont eu lieu en France. Et c'est Natalia Wysocka qui nous en parle dans le journal du Métro du 12 janvier. Mm-hmm. Les mots « Je suis Charlie » ont résonné plus d'une fois dans l'enceinte du Beverly Hilton Hotel dans le cadre des 72e Golden Globes. Une cérémonie aux accents engagés, lors de laquelle le boyhood de Richard Linklater a notamment récolté les grands honneurs. Ce n'était pas une soirée marquée par un balayage, ni par des gags particulièrement désopilants, ni par l'omniprésence des deux animatrices Tina Fey et Amy Poehler. C'était toutefois une soirée agrémentée de discours inspirants qui allaient au-delà du traditionnel « Merci Dieu, merci le Foreign Press Association, merci maman ». On retiendra que Boyhood a remporté le convoité trophée du meilleur film dramatique, que son réalisateur, le toujours relax et souriant Richard Linklater, est reparti avec le titre de « Meilleur réalisateur ». Que Grand Budapest Hotel de Wes Anderson a été sacré meilleur film dans l'étrange catégorie comédie ou comédie musicale. Des moments marquants, certes, mais on se souviendra surtout de cette soirée pour le « Je suis Charlie » de George Clooney. « Aujourd'hui était un jour extraordinaire », a-t-il dit. Des millions de gens ont manifesté. Pas seulement à Paris, mais partout dans le monde. Des chrétiens, des juifs, des musulmans. Et ils n'ont pas manifesté pour protester, mais pour soutenir l'idée que nous ne vivons pas dans la peur. Venu présenter un prix quelque temps avant, Jared Leto aussi a exprimé son soutien. « À nos familles, à nos proches, à nos amis en France, on vous aime, je suis Charlie », a-t-il lancé. Même le renfrogné Billy Bob Thornton a fait un clin d'œil à la défense de la liberté d'expression en allant chercher sa récompense pour Fargo. Tout au long de la cérémonie, plusieurs causes ont été défendues au micro. Jill Soloway, la créatrice de Transparent, sacrée meilleure série dans la catégorie comédie, a dédié son prix à Leila Alcorn, l'adolescente transgenre qui s'est enlevée la vie le mois dernier. Jeffrey Tambor, nommé meilleur acteur pour son rôle dans cette même série produite par le nouveau venu Amazon, a pour sa part dédié son prix et sa performance à la communauté transgenre. « Merci de nous laisser faire partie du changement », a-t-il dit. Continuons. La récompensée Gina Rodriguez, star du téléroman telenovela Jane the Virgin, a salué la communauté latino-américaine. Ayant hérité du titre de la meilleure actrice dans une mini-série pour sa participation à The Honorable Woman, Maggie Kinengal a quant à elle souligné la quantité de bons rôles, non seulement de femmes, mais de vraies femmes que l'on trouve de nos jours. Si les séries gagnantes sont pour la majorité peu connues du grand public, notons que Kevin Spacey a connu son instant de gloire pour son rôle dans House of Cards.
J'avance debout dans ma nacelle en équipe.
qui ne me plaît pas, c'est me complaire. Pourquoi serais-je docile comme un chien? Tout ce que j'ai eu de facile ne vaut rien. J'aime pas le confort de la routine. Ma dopamine, c'est ma copine.
We dreams of you. Every night.
Je réalise au fil de mon voyage que la belle aventure est dans le courage, dans le grand nord, à Paris, dans mon corps ou à Pékin. Je sais que sans le danger, je sens rien. Pourquoi serais-je docile comme un chien? Tout ce que j'ai eu de facile à brûler comme du froid. Je suis de ceux qui buguent la machine. Ma dope à moi, c'est ma copine. Ma dope à moi, c'est ma copine. Maman, y'a rien à faire, je l'ai dans la peau. J'ai besoin de ma dose, indépendant mais accro à cette femme qui n'aime comme je l'aime. Je savoure ma veine en sachant qu'un jour il se peut que ça saigne. Pourquoi serais-je facile comme un chien? Tout ce que j'ai eu de facile ne m'a pas mené loin. Pourquoi serais-je docile comme un chien? Tout ce que j'ai eu de facile à brûler comme du feu. Je suis un accro de ma copine.
Sweet dreams of you.
On vient d'entendre « Ma dope à moi » de Yann Perrault. Est-ce que, Jennifer, tu es fan de théâtre d'objets ou de marionnettes?
Oui, oui, ça peut me plaire, ça peut me plaire.
Oui, bien, dans ce cas-là, je t'invite au Périscope. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'aller à Québec ces temps-ci, peut-être?
Peut-être, non? Peut-être.
Ben oui, en tout cas, si jamais vous, à la maison, vous habitez près de Québec, au Périscope, jusqu'au 31 janvier, aura lieu le spectacle « Méphisto Méliès ». C'est Gabriel Marcoux-Chabot dans Le Devoir qui nous en parle. C'est paru le 15 janvier. Le diable du kinétographe. Avec Méphisto Méliès, le théâtre Moutsus s'associe au théâtre Populus Mordicus pour nous offrir un spectacle d'une grande beauté porté par le souffle d'une inventivité et de la nostalgie. Nostalgie des débuts du cinéma et des artistes oubliés qui ont accompagné ses premiers pas. Nostalgie de la belle époque, de son esthétisme, de son effervescence culturelle et scientifique. Inventivité de la mise en scène, des éclairages et de la scénographie. Beauté des décors, des marionnettes et des accessoires. Beauté du geste et du message, beauté. Pendant 1h30, on se laisse porter par ce doux mouvement qui nous ramène 100 ans en arrière, à l'époque où Georges Méliès, réalisateur de génie, inventeur des premiers trucages du cinéma, émerveillait le public grâce à ses films fantastiques aux effets spéciaux déconcertants. Pendant 1h30, on s'émerveille à notre tour de la virtuosité des acteurs et des marionnettistes qui donnent la vie à ce diable d'homme et à son univers extravagant. Jailli d'un vieux kinétographe, Méphisto, l'incarnation du génie du créateur de Méliès, nous sert de guide au cours de ce voyage à demi fictif dans le temps. Elena Kobelkoff, fille d'un propriétaire de théâtre ambulant, l'accompagne dans cette aventure fournissant l'histoire, son intrigue et son dénouement. Leur route croisera bien sûr d'autres personnages. Georges Méliès lui-même, bien sûr, mais aussi Georgine et Germanine, des sœurs siamoises au caractère aussi libidineux qu'irritable, et surtout l'extraordinaire Nikolai Kobelskov, businessman débonnaire, débonnaire et prodigieux homme tronc. On peut reprocher à la pièce une certaine mièvrerie, bien perceptible dans le texte au ressort dramatique assez convenu. Par ailleurs, malgré le caractère attachant, la plupart des personnages sont traités de façon superficielle et gagneraient à être développés davantage. De plus, disons-le franchement, le discours sur l'art, la création et le devoir de mémoire qui sous-entend le récit multiplie les clichés. Cela dit, on pardonne aisément la pièce et ses défauts évidents. La proposition est originale, inventive, drôle, surprenante et émouvante même. On se demande finalement si la naïveté du texte ne participe pas de la nostalgie qui imprègne la pièce, nostalgie d'un monde plus simple qui n'a peut-être jamais existé, dans lequel la fantaisie et la beauté suffiraient à nous faire oublier la cruelle difficulté d'exister. Alors je le répète, c'est au Périscope jusqu'au 31 janvier, Mephisto, Méliès.
De gros noms de la musique américaine comme Missy Elliott et Timbaland signent la production du nouvel album My Garden de Kat Dahlia. La jeune interprète-compositeur de Miami, d'origine cubaine, est reconnue pour son talent de rappeur et de chanteuse, de rappeuse et de chanteuse valsant entre le rock, le pop et le hip-hop. Son style très polyvalent fait d'elle une artiste complète et ses chansons sont réfléchies et parfois engagées. Ses paroles atteignent son jeune public, ce qui montre qu'elle n'a nul besoin de se dénuder comme bien d'autres. Ses tubes Gangsta et Crazy abordent les thèmes de la rue, de l'amour, avec ses hauts et ses bas, et de la recherche d'identité. Ça sort cette semaine.
Aussi dans nos cinémas, Sommeil d'hiver, c'est un film de Turquie. Un riche homme d'affaires subit les affronts et les rebuffades de sa sœur divorcée, de sa jeune épouse et des habitants du village qui lui doivent de l'argent. Palme d'or à Cannes, ce nouveau film du réalisateur d'Il était une fois en Anatolie s'articule autour d'une intrigue minimaliste et universelle qui se décline en une symphonie de conversations chargées de sens, somptueusement éclairées, pour la plupart à la lumière d'un feu de cheminée. Bill Giner est excellent dans le rôle principal, c'est à voir. On se laisse le temps d'une courte pause, on vous revient avec la deuxième partie de Kiosque Magazine.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Toujours en théâtre, Jennifer, tu nous proposes une autre sortie.
Oui, tout à fait. C'est le Dénominateur commun. Donc, ça sort au théâtre. Enfin, ça a démarré le 13 janvier et ça va jusqu'à la fin du mois au théâtre La Licorne. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures du 13 janvier. Dans une expérience théâtrale inédite, deux auteurs sont allés à la rencontre de spécialistes afin d'alimenter leurs réflexions entourant trois questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Le dénominateur commun est la création théâtrale résultant de ce singulier dialogue chapeauté par le metteur en scène Geoffrey Gacker. Comme souvent, le rôle des auteurs dramatiques est de questionner l'âme humaine, l'univers. Je me suis dit que ce serait intéressant de jumeler des auteurs dramatiques avec des savants, explique l'initiateur du projet Geoffrey Gacker. Les deux auteurs, François Archambault et Emmanuel Jimenez sont donc allés à la rencontre d'un physicien des particules, d'un généticien, d'une théologienne et d'un psychologue. En résulte un enchaînement de numéros de toutes sortes, monologues, témoignages, scènes dialoguées, chants, etc., dont le dénominateur commun est de tenter de percer le mystère de la vie terrestre. Du point de vue de la mise en scène, le grand défi était de rendre quelque chose de scientifique, de philosophique totalement concret, très simple à suivre pour le spectateur. Le maître d'œuvre en a eu l'idée lors du festival du Jamais Lu 2013. À l'invitation de Marcel Dubois, il en était le co-directeur artistique et il devait entreprendre un projet d'écriture. Je me suis dit que ce serait bien de convier les auteurs dramatiques à sortir de leur solitude et à aller rencontrer des personnes qui ne font pas le même métier qu'eux pour traiter d'un sujet, explique-t-il. Il voulait également renouer avec l'esprit de la Renaissance, époque où l'art et la science n'étaient pas deux domaines complètement distincts mais complémentaires. On ne disait pas la science mais les sciences, et l'art était une façon d'appréhender le monde, d'essayer de le comprendre au même titre que la science, fait-il remarquer. Le théâtre debout invite donc le public à se confronter directement au vertige de l'existence humaine. On se dit qu'on est entouré de trous noirs, qu'un jour le soleil n'existera plus et donc que l'espèce humaine n'existera peut-être plus. On rit beaucoup de l'absurdité de notre condition, c'est-à-dire que fait-on sur Terre ? Ce questionnement existentiel sera porté par la voix de quatre comédiens, soit Benoît Dagenet, Muriel Dutil, Maxime Godette et Joanne Aberlin. J'avais envie d'avoir deux générations sur scène et j'ai choisi des acteurs au fort pouvoir d'évocation, conclut Geoffrey Gacquer. Donc je rappelle, le dénominateur commun, c'est au théâtre La Licorne du 13 au 31 janvier.
On vient d'entendre « Dirty Laundry » de Bittersweet. Maintenant, Jennifer, tu nous proposes une sortie dehors, mais en musique.
Dehors en musique. Et puis, c'est danser pour se réchauffer. C'est le festival Igloo Fest.
Ah, oui.
C'est Raphaël Gendron-Martin qui nous en parle dans le journal du 24 heures de ce week-end. Avant de fêter son 10e anniversaire en 2016, Igloo Fest propose sa plus audacieuse et imposante programmation dans une 9e édition qui sera marquée par la musique techno. Événement qui atteint sa pleine maturité, Igloo Fest est depuis bientôt 10 ans un incontournable de l'hiver montréalais. Pour sa 9e édition, l'équipe du festival a décidé de lui attribuer un budget 30% plus important que l'année dernière. Il y a vraiment une bulle sur la musique électronique en ce moment, explique Michel Quintal, directeur de la programmation, cofondateur et directeur des commandites d'Igloofest. Les cachets des artistes ont explosé cette année. Si on avait présenté la même programmation que l'an dernier, ça nous aurait coûté 100 000 dollars de plus. Alors que l'organisation est déjà en train de penser au 10e anniversaire, Michel Quintal parle de la 9e édition comme de la plus ambitieuse de la petite histoire d'Igloofest. C'est une année techno alors que c'était plus house l'an dernier. Parmi les nouveautés, on retrouvera sur le site un jeu de hockey en sumo ainsi que de nouvelles zones VIP. Ça nous permet de garder contact avec la clientèle des 30 ans et plus, dit-il. La 9e édition d'Igloofest se tiendra les 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31 janvier, ainsi que les 1er, 6, 7 et 8 février. Et vous retrouverez toutes les infos sur igloofest.ca.
Jennifer, si je te dis la tendresse des robots, c'est comme ça que s'appelle mon prochain article, c'est intriguant, hein?
C'est très intriguant. Justement, dis-moi en plus, dis-nous en plus.
Oui, ben c'est une des nombreuses installations qui sera affichée dans le cadre du Multimois. C'est un festival d'art visuel et d'artistes multidisciplinaires. C'est paru dans Le Voir le 15 janvier dernier. Isabelle Porter nous fait ce portrait de cette exposition, en fait de cette installation, La tendresse des robots. Comme chaque année, le Multimois de Québec propose au public un paquet d'événements inusités tout au long du mois de février. Esprit obtus, s'abstenir. Art cinétique, robots empathiques, sculptures chantant au gré du vent, les propositions cherchent toutes à repousser les limites du connu. La première partie du festival, du 4 au 7 février, est dédiée au spectacle multidisciplinaire. Cette année, trois propositions retiennent l'attention. De l'Autriche, on présente une performance chorégraphique sous le thème du narcissisme et des médias sociaux. Le tout sous le signe de l'humour et de la finesse. On dit aussi beaucoup de bien de Radical Chaos de l'artiste de Québec Jocelyn Pelletier. Ce collaborateur de Christian Lapointe a bâti une performance inspirée de l'univers de la boxe. Une expérience sensorielle assez intense, promet-il. Installation. Enfin, de Montréal, on nous ramène à la dernière création du théâtre de la pire espèce sous le thème des villes. Ah oui, j'en avais parlé dans une précédente édition de Kiosque Magazine. Un petit bijou inspiré du livre « Les villes invisibles » de Italo Calvino. À partir du 12, ce sera le temps d'aller voir les installations, une dizaine au total. Cette année, deux d'entre elles mettent en scène un robot avec « Blind Robot ». Le visiteur se fait littéralement tâter par un robot aveugle, une expérience qu'on dit carrément intime. Sculpture sirénique. La responsable de la programmation, Viviane Paradis, insiste aussi sur la grande qualité de l'œuvre de Samuel Saint-Aubin, présentée au studio d'Avatar. Avec des objets aussi simples qu'une cuillère ou une feuille de papier, cet artiste crée apparemment des sculptures cinétiques très fortes. Ferrare, on nous propose aussi cette année un spectacle pour enfants, 7 ans et plus, avec Dreaming Now. Créé par le collectif montréalais U-Theater, l'œuvre met en scène le rêve d'un petit garçon. Au total, c'est une centaine d'artistes qui participent à ce 16e mois multi. La plupart des œuvres sont présentées au complexe Méduse, à l'exception de quelques-unes au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Chambre blanche, à la Rotonde, à l'Antis, ouais, je suis jamais allé, ça paraît, au Cercle, à la Galerie des arts visuels et à l'Atelier du roulement à billes. Donc, c'est du 4 au 28 février et vous pourrez voir des œuvres de France, de Singapour, d'Autriche, des Pays-Bas, des Royaumes-Unis. Wow. Et d'ici, bien sûr, les informations 418-524-7553. Et toujours à Québec, une autre exposition. Cette fois-ci, c'est le photographe Renaud Philippe qui expose son travail à Québec. C'est ainsi qu'est titré l'article du Devoir paru le 13 janvier, écrit par l'équipe du Devoir. Le photographe Renaud Philippe, collaborateur du Devoir depuis quelques années, propose de voir à Québec une exposition de son travail réalisé à l'occasion d'un trajet quasi aléatoire de 180 heures en autobus. Bon, il y en a qui trouvent ça long, il y en a qui ont...
Il y a des courageux.
Oui, exactement. On va y aller en autobus, tiens donc. 185 heures est un exercice, dit-il. Le photoreporter souhaitait plonger hors de son cadre habituel pour sonder les origines de son rapport à la photographie. Un temps d'arrêt lui était nécessaire, croit-il, afin de questionner les motivations personnelles derrière son travail. Ce sera donc un trajet de 180 heures en bus, sans itinéraire fixe, justement justifié seulement par l'appareil photographique en bandoulière. Une initiative spontanée qui prend tout son sens en envisageant différemment le sujet, ou plutôt son absence. Ces heures interminables d'autobus correspondent à 10 464 km, Jennifer. C'est long. Après un moment sur la route, le bus, les voyageurs, les passagers, les lieux, tout devient accessoire. Seul reste la solitude, le rêve et l'infini. L'essence même du projet, la matière. L'exposition met à contribution le photographe ainsi que la photographie ainsi que la vidéo et le son, une réalisation de l'artiste Alexandre Berthier. L'installation qui résulte de ce périple est proposée, jusqu'au 23 février au Cercle à Québec. C'est situé au 228 rue Saint-Joseph-Est.
Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace, ah, ah, mi piace, ah, ah, mi piace. Tanto, tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piace. Tanto, tanto, ah, questo stranissimo ballo che faccio con te. Si chiama tuca, tuca, tuca. Mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio, ah, ah, ti voglio, ah, ah, è tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Mi piace, mi piace, mi piace, ah, ah, mi piace, ah, ah, mi piace, tanto, tanto, oh. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, ah, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, ah, e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me.
Tuka Tuka de Pink Martini, une chanson qui, tu m'as dit, Jennifer, mariait bien ton article.
Oui, effectivement, parce que le collectif Les Femmes LED nous propose un cabaret, un spectacle humoristique au féminin.
Okay.
C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le journal Le 24 Heures de ce lundi 12 janvier. Une fille s'essaye. Tel est le leitmotiv du collectif Les Femmelettes. Mmh. Ces dernières invitent tous les mois le public à un laboratoire de création humoristique à l'espace Larizé. J'ai créé l'événement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour vraiment expérimenter, explique l'instigatrice du projet Marie-Christine Pilote. Ainsi, avec pour seule limite, celle de leur imagination, les femmelettes présentent dans un cabaret humoristique dans lequel s'enchaînent des sketchs, des scénettes, des numéros de groupe, des stand-up, du slam et des chansons. Par ailleurs, les membres des femmelettes sont issus d'horizons divers. Certaines sont passées par l'École nationale de l'humour et d'autres ont une formation théâtrale. Sans vouloir complètement exclure les artistes masculins des présentations, la fondatrice des Femmelettes avoue avoir eu la volonté de créer un terrain de jeu d'abord pour les femmes. Dans les soirées d'humour, le ratio est souvent 6 gars pour une fille, fait-elle valoir. En résidence depuis 2 ans au théâtre Larizé, le collectif propose un nouveau spectacle tous les premiers lundis du mois. En juin dernier, l'humoriste Marie-Lise Pilote est venue assister à une représentation et elle a tellement aimé le concept qu'elle a décidé de le parrainer. Mmh. Animée par Francine Larrault, les soirées des Femmelettes offrent du contenu original. Bien que certains concepts reviennent mois après mois, c'est le cas de l'équipe sportive Les Dynamites de Longueuil. Véronique Pascal écrit une sorte de feuilleton sur les Dynamites de Longueuil, une équipe sportive féminine qui vit les choses à travers le sport, dit la fondatrice de l'événement. Le public peut également retrouver chaque mois des numéros des Amuse-Girls formés par Céline Brassard, Catherine Hammam, Anka Rouleau et José Rivard. Elles sont dans la performance et créent des numéros souvent très politisés, affirme Marie-Christine. De plus, les Femmelettes reçoivent un artiste invité à chaque représentation. Donc je rappelle, c'est tous les lundis, chaque mois, au théâtre à l'espace Larizé.
Au bas du fleuve, jusqu'au 1er février, le musée régional de Rimouski présente Lapin Cyclope, une exposition interactive de l'artiste Jonathan Plante destinée aux enfants de 3 à 10 ans. Les aventures rocambolesques de ce lapin à un œil qui a raté immanquablement le trou de son terrier sont racontées par le truchement d'une vidéo d'animation, des peintures originales, d'un livre didactique géant et de diverses illusions d'optique. C'est tous les dimanches jusqu'au 25 janvier. Jusqu'au 25 janvier, tous les dimanches, 2 activités de création sont offertes dans le cadre de cette exposition-là. C'est-à-dire des fabrications d'une traumatope pour les 3 à 5 ans et pour les 6 ans et plus, un collage collectif. Les réservations sont recommandées. C'est au Musée Rimouski, museerimouski.qc.ca.
En humour, couscous comédie show. Une fois par mois, comme le veut Uncle Fofi, le couscous comédie show reçoit des artistes de l'humour, de la danse, de la musique et des arts de la scène. L'événement fut tellement populaire qu'il fut consacré en 2011, révélation de l'année dans le monde de l'humour au Québec. Et depuis, Uncle Fofi participe au festival Juste pour rire et ZooFest. C'est donc demain soir qu'il accueille chaleureusement Rachid Badouri, nommé affectueusement le plus salopard des couscous. Ça débute ce soir à 18h30 au Théâtre Rialto.
Pour ceux qui veulent se changer les idées autrement, dans les Laurentides, samedi et dimanche, les Vergers de la France à Saint-Joseph-du-Lac invitent le public à participer à la cueillette de pommes gelées qui serviront à la production du cidre de glace. Pour l'occasion, plusieurs activités sont offertes, visite guidée de la cidrerie, dégustation de cidre, randonnée pédestre, glissade. Aussi, sur les lieux, un café-terrasse, un bar de glace avec du jus de pomme chaud et la tire de pommes sur neige. Oui, la tire de pommes. Et un grand feu de joie où l'on servira des saucisses de sanglier. L'entrée est gratuite.
C'est génial.
Oui.
La danse et le théâtre se rencontrent dans la chorégraphie Les Chaises, signée par Pierre-Paul Savoie. Cette œuvre originale de Gene Ionesco raconte l'histoire de deux vieillards qui s'ennuient à mourir et qui s'inventent la visite de personnages farfelus pour mettre du piquant dans leur vie. Ce scénario fantastique est transposé sur scène à l'aide de mouvements incessants de chaises, de gestes clownesques, de bousculades orchestrées et d'une danse funambulesque. Ça débute ce soir à 19h au Lionel Gros.
Pour les insomniaques, le Mont-Saint-Sauveur accueille les skieurs et les planchistes de 19h à minuit dans le cadre des samedis insomniaques. Pour l'occasion, le ski de soirée ne coûte que 19 $ par personne, donc pour les intéressés, le 24 janvier ainsi que les 7 et 21 février.
En concert, la troupe de danseurs Phoenix Wuyayung regroupe 50 artistes chinois de la région de Montréal, contrairement à la troupe de Shen Yun Performing Arts, qui regroupe des artistes internationaux basés à New York. Le spectacle est un voyage en Orient, où les spectateurs retrouveront les dragons, les couleurs de la soie, la musique traditionnelle chinoise, la grâce de Kung Fu, l'opéra de Pékin. Le théâtre Maisonneuve se transforme donc en un immense tableau folklorique dédié à la culture de la Chine, avec chant, danse acrobatique, arts martiaux et musique instrumentale. Ça débute demain soir à 20h au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Une petite nouvelle, à Québec, une nouvelle galerie viendra transfigurer le marché de l'art actuel à Québec dès la fin mars. Sous l'égide de trois hommes d'affaires et collectionneurs, des artistes incontournables comme BGL, Grammy Patterson, Yannick Pouliot, Dan Bro, Sarfaraz exposeront à Québec et pourront être mieux présentés auprès des musées nationaux. Souhaitant enrichir l'offre actuelle en art à Québec et développer la carrière d'artistes qui ont des corpus, qui ont des coups de cœur communs, les trois amis Nobert Langlois, Pascal Champoux et Abdella Chiguer ont décidé de fonder la Galerie 3. C'est comme ça que s'appelle la nouvelle galerie. Le nom de BGL, qui représente le Canada à la prochaine Biennale de Venise, a servi de locomotive au début du projet. Ils ont dit oui tout de suite et qu'ils voulaient nous supporter, raconte Norbert Langlois, ami et collègue de la classe du toujours audacieux et surprenant trio de Québec.
Dumais rencontre Bartok. La Maison symphonique de Montréal accueille le violoniste et chef d'orchestre français Augustin Dumais. Le concert Dumais rencontre Bartok pour un concerto de violon mettant en vedette les créations originales du XXe siècle du pianiste hongrois Béla Bartok. En fait, Bartok a composé le deuxième concerto pour violon, l'un des récitals les plus importants de ce genre depuis Beethoven. Le violon devient donc maître de cérémonie et c'est l'interprétation parfaite de Dumais qui nous transporte dans la richesse, le folklore et les rythmes de l'œuvre du célèbre compositeur. D'ailleurs, ce soir, Kent Nagano porte toujours le chapeau de chef d'orchestre. Donc, ça commence ce soir à 20h à la Maison symphonique de Montréal.
Pour ceux qui ne sont pas trop fans d'hiver, ben, prenez la direction du cinéma ce week-end. Quand en plus le film parle de ski, ce film c'est Force majeure. Avec l'acclamé Force majeure, le réalisateur et cinéaste suédois Ruben Östlund signe un drame aux accents éclatés et tragiques et comiques dans lequel une famille à la cohésion fragile se retrouve dans un luxueux centre de villégiature pour un petit séjour reposant. Reposant, ben, pas vraiment. sans compter les conflits, les non-dits et les frustrations qui se retrouvent amplifiées par mille lorsque la nature se déchaîne et vient mettre encore plus le bordel dans toute cette histoire. Voir du monde skier, se chicaner et se déchirer à l'écran n'a jamais été aussi agréable. C'est dans vos cinémas, ça s'appelle Force majeure.
Et au théâtre, la pièce unique Pekel and Ruffel sort totalement des sentiers battus avec ses personnages, les marionnettes Ruffel, une croustille et Pickles un cornichon. Le scénario, qui se veut être un drame, débute par la mésaventure tragique de Rolf, qui a vu tous les membres de sa famille dévorés par des mangeurs dans un sac de chips. Puis Rolf rencontre Pickles dans un bar. Celui-ci est totalement dépressif car tout le monde se fout de lui et il ne peut plus, il n'en peut plus de nager dans l'eau sale d'impôts. Les deux étrangers seuls noient leur peine lors d'une soirée bien arrosée. C'est le début d'une histoire d'amour assaisonnée et inattendue entre un cornichon et une chips. Derrière un grand bar se cachent les manipulateurs Pierre-Louis Renaud et Carl Vincent, qui donnent vie avec brio à ces objets de théâtre peu communs. Ça débute demain soir à 20h à la salle Albert Dumouchel.
Et pour terminer, si vous aimez le Divan Orange et vous avez envie d'aider à la survie de cette charmante salle de spectacle sur le boulevard Saint-Laurent, ben c'est ce soir à 21h30 qu'aura lieu le lever de son numéro 2. C'est au coût de 12 $ et c'est pour une bonne cause, pour la survie de cette salle de spectacle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Kiosque Magazine, Charles Roy au micro avec Jennifer Vignery. Bonne journée. Merci à Rémi Hermoso à la technique. On se revoit bientôt.
Bonne journée à tous. Merci.